RFJ Info.
Le journal d'Émilie Moumentaler.
Et bonjour, un chiffre à retenir, le 10. Il résume les bons résultats de l'horlogerie suisse au premier semestre 2018. Les exportations sont en hausse de plus de 10% par rapport à la même période l'an dernier. La valeur des montres livrées atteint 10 milliards de francs. Le Nicaragua est secoué par des violences entre manifestants et forces de l'État depuis 3 mois. Vous entendrez dans ce journal l'éclairage sur la situation dans ce pays d'Amérique centrale de Jean Parra, membre du groupe Nicaragua de Delémont. Madeleine, Croix de Fer et Alpes d'Huez, 3 ascensions mythiques sont au menu de l'étape reine du Tour de France cycliste aujourd'hui. Les prétendants au podium devront réagir s'ils entendent briser l'hégémonie de la Sky. Météo, une belle journée bien ensoleillée sur l'ensemble de la région est annoncée. Le temps devrait rester sec. Il fera très chaud au meilleur de la journée. Le mercure pourrait grimper jusqu'à 31 degrés en pleine. L'horlogerie suisse retrouve des sommets. Les exportations ont franchi la barre des 10 milliards de francs sur les 6 premiers mois de l'année. C'est plus de 10,5% de plus que la même période l'année dernière. Un tel seuil n'avait plus été atteint depuis 2015. Les affaires sont si bonnes que la prévision pour cette année est revue à la hausse. Les précisions de Gabriel Devec.
10 milliards de francs d'exportation, ça signifie que l'horlogerie suisse a expédié 11 700 000 montres à l'étranger. En termes de valeur, 8 francs sur 10 proviennent des montres mécaniques, de quoi compenser le recul des montres électroniques. Au niveau des segments de prix, la demande la plus forte concerne les garde-temps entre 500 et 3 000 francs. Au-delà de 3 000 francs, la hausse reste solide. Quant aux montres de moins de 200 francs, elles ne sont pas à la fête, mais maintiennent leur valeur à l'équilibre après 2 ans de baisse marquée. Concernant maintenant les marchés. C'est l'Asie qui a monopolisé la croissance, selon les termes de la Fédération horlogère suisse. 30% d'exportations en plus à Hong Kong, à 1,5 milliard de francs, et même 34% de livraisons supplémentaires en Corée du Sud, à 500 millions. La Chine, le Japon et la Thaïlande ne sont pas en reste. En Europe, c'est la France qui se distingue, étonnamment, selon l'AFH, avec une croissance des exportations de 17%. Selon l'ombre au tableau, l'évolution négative des marchés au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne.
Va-t-on vers une opposition frontale entre cantons riches et cantons aux capacités financières faibles? Deux dossiers financiers chauds risquent de raviver l'adversité à l'automne. La réforme fiscale PF17 et surtout l'adaptation de la péréquation financière intercantonale. Les premières banderies sont lancées cette semaine dans la presse alémanique par le ministre Zougois des Finances, qui évoque une Valais-Jura Connection pour faire échouer le projet. Il accuse ces cantons pauvres de s'en prendre à la cohésion nationale. De Berne, les explications de Serge Jubin.
L'attaque de Heinz Stenler, ministre UDC des Finances du canton de Zoug, dans le Tagesanzeiger, est virulente. Il soupçonne les cantons financièrement faibles de vouloir faire capoter le projet révisé de RPT, la péréquation fédérale, et lui-même menace de boycotter les conférences intercantonales. Les cantons qui se sont opposés au compromis de nouvelle RPT ou se sont abstenus veulent-ils réellement faire échouer le programme? Le conseil national PDC valaisan Thomas Seger apparaît comme putschiste en chef parce qu'il a déposé un postulat sur le sujet. Écoutez-le.
Ça, c'est vraiment exagéré. On ne veut pas faire capoter la réforme de la péréquation financière, mais on veut avoir des bases de discussion qui sont sereines et qui nous orientent vers le long terme. C'est ce que j'ai demandé aussi dans un postulat, c'est d'avoir une vision sur les années 2020 à 2030. On a deux dossiers qui sont en même temps sur le tapis. La péréquation financière et la réforme de la fiscalité, le fameux projet PF17. Et si on voit les effets cumulés, c'est ça qui nous fait peur un petit peu. Si on voit uniquement pour le cas du canton du Valais, nous, on va perdre à peu près 150 millions de francs. On fait des mesures transitoires sur 6 années ou 7 années, comme ça c'est moins grave, etc. Quand il n'y a plus de mesures transitoires, c'est ça qui devient dangereux.
Le diable se cache comme de coutume dans les détails du projet de nouvelle péréquation. La principale pierre d'achoppement, la Confédération prévoit de réduire de 280 millions sa contribution au pot confédéral. Les cantons sont là unanimes pour s'y opposer, mais ils ne sont pas d'accord sur la manière de se redistribuer ce montant, surtout sur la durée. Est-ce que, comme le lance le Zougois Heinz Stenler, la cohésion nationale est menacée? On retrouve Thomas Seger.
On dit toujours qu'on veut renforcer la collaboration entre villes et campagnes. Sur le papier, à l'allocution du 1er août, ça sent toujours bien. Mais après, quand on discute sur des choses très concrètes, surtout sur l'argent, c'est là que tous ces fossés s'ouvrent. Et il faut rappeler quand même que si on regarde les chiffres de la péréquation financière, le plus grand contributeur, bien entendu, c'est Zouk. Mais avec toutes les réformes qu'il y a eu, avec tous les paiements qu'ils ont dû faire, ils sont toujours à peu près 3 fois plus importants en force économique que tous les cantons autres.
Le projet finalisé de nouvelle RPT sera dévoilé par le Conseil fédéral en septembre. Les débats aux chambres débuteront lors de la session d'hiver.
C'est bientôt la fin de l'enfer pour les automobilistes qui traversent la Chaux-de-Fonds d'est en ouest. Le chantier du pont du Manège est presque terminé. Les rues du Cré et du Manège seront rouvertes à la circulation demain soir pour une durée de 3 semaines, avant une nouvelle fermeture d'une quinzaine de jours. Le gros du chantier avait eu lieu en 2017, mais il a fallu remettre la compresse cette année. Nicolas Monin, responsable du secteur génie civil pour la ville de la Chaux-de-Fonds.
Principalement, les travaux de cette année ont consisté à la réalisation ou l'assainissement des infrastructures, notamment de la conduite d'eau, conduite de gaz, des travaux au niveau électricité, aussi collecteur communal à certains endroits. Et puis on a profité donc d'assainir en fait la partie sud de la chaussée qui n'a pas été touchée par les travaux l'année passée.
Pourquoi est-ce que ce chantier a dû se dérouler sur 2 ans ?
Alors, on était assez court l'année passée. On attendait une autorisation de l'Office fédéral des transports pour pouvoir lancer les travaux. Donc, on a démarré le chantier assez tard, début juillet. Donc, on était très serré en fait pour terminer les travaux l'année passée. On a réussi à rendre la circulation, mais en ayant posé en fait une couche de revêtement provisoire au niveau de la dernière couche, donc la couche de roulement.
Des propos recueillis par Myriam Videvert. Le tronçon sera refermé après le marché concours de Seignelay-Légier le 13 août pour une durée maximale de 2 semaines. Cette fermeture doit permettre la pose de la couche de roulement, des travaux qui auront lieu de nuit pour ne pas perturber la circulation des trains des CJ. Un navigateur de 72 ans a été retrouvé mort hier dans le lac de Neuchâtel, près de Grandson, dans le canton de Vaud. Son voilier inoccupé avait été découvert 2 heures plus tôt, près de Chezeaux, Noréa, toujours sur territoire vaudois. Le bateau échoué a été remarqué vers 15h25. Personne ne se trouvant à bord ni à proximité immédiate. D'importants moyens ont été mis en place pour retrouver son pilote. C'est ce qu'indique ce matin la police vaudoise. C'est à proximité de Grandson que la victime a été retrouvée vers 17h20. Domicilié dans la région, l'homme était déjà décédé. Les secouristes n'ont rien pu faire. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que l'embarcation dont les voiles étaient hissées était en mode pilote automatique. Quant aux causes du décès, elles ne sont pour l'heure pas connues. Le Nicaragua se dirige dangereusement vers une guerre civile. C'est le constat que tire Jean Parra, membre du groupe Nicaragua. Cette organisation de soutien de Les Montaignes anime le jumelage de la capitale jurassienne avec la Trinidad et lui apporte son aide. Ce pays d'Amérique centrale fait face actuellement à de fortes violences entre le gouvernement et ses opposants. Les manifestations ont commencé il y a 3 mois et la situation ne cesse de s'envenimer. Le bilan fait état de près de 300 morts et 2000 blessés. Si la presse internationale fait surtout l'écho de la répression menée par le gouvernement du président Daniel Ortega, pour Jean Parra, il est important de comprendre la situation actuelle du pays dans son ensemble, son éclairage.
La Commission des droits de l'homme, justice et paix vient de sortir un rapport qui dit que moins de la moitié des morts sont des gens qui étaient sur les tranquets. Ces tranquets, c'est ces endroits de bataille et ces endroits qui bloquent le trafic et qui font de l'intimidation dans des villages ou dans des villes. Tout le reste, on n'entend pas parler. Il y a une semaine, dans le sud, un poste de police a été attaqué par les mêmes gens. La police s'est défendue depuis l'intérieur. Quand ils n'ont plus de munitions, ils sont entrés, ils les ont exécutés tous. Mais on n'en entend pas parler, étonnamment. Alors, il est clair que quand la police descend dans la rue et tire à balles réelles contre des manifestants, c'est de la répression. Et c'est inadmissible et ça nous désespère. Mais quand en face, on tue aussi des gens parce qu'ils ne ferment pas leur commerce le jour de la grève générale. On tue des gens parce qu'on incendie leur maison. On incendie des mairies et puis on attaque, on intimide nos amis à nous, à la Trinidad, par exemple. Eh bien, c'est aussi inadmissible.
Est-ce qu'on peut parler ici d'un coup d'État destiné à renverser le président Daniel Ortega ?
On ne peut pas parler vraiment d'un coup d'État au sens pinochettiste du terme, j'ai envie de dire. C'est étonnant, tout d'un coup, un pays où il y a des manifestants, il y a la police qui tue des manifestants, c'est inadmissible, les gens se lèvent, font des manifs, puis tout d'un coup, de ces manifs, depuis 2 mois, surgissent des groupes très bien organisés, des troupes très bien armées, à la Trinidad, par exemple, des groupes qui ont semé la terreur, vraiment qui ont fait des intimidations, des gens ont dû quitter leur maison, ils ont dû se planquer, ils ont dû quitter la Trinidad, il y avait 200 personnes en armes dans la rue qui étaient là. Subitement, ils avaient les moyens de manger, ils avaient les moyens de dormir à des endroits préparés pour ça. C'est étonnant de voir tout d'un coup ce genre de choses qui surgissent. Alors d'où ça vient ? Moi, je ne suis pas un devin. Je constate juste qu'aujourd'hui, la volonté de vraisemblablement ces gens-là et quelques organisations qui les manipulent peut-être, c'est effectivement de faire tomber le gouvernement et de faire tomber le pays dans une crise économique terrible.
Le groupe Nicaragua est actif dans l'ouest du pays depuis plus de 30 ans. Il mène des projets destinés à améliorer les conditions de vie des populations vivant en zone rurale. L'Union européenne juge insuffisante la levée de l'état d'urgence en Turquie. Si elle estime que c'est un pas dans la bonne direction, elle considère que ce n'est pas assez en raison des pouvoirs extraordinaires accordés aux autorités et du maintien de plusieurs éléments restrictifs pour les libertés. La porte-parole de la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, s'est exprimée à ce sujet ce matin. L'état d'urgence avait été instauré en Turquie après la tentative de putsch de juillet 2016 et a permis aux autorités de mener de vastes purges. Il avait été sans cesse prolongé jusqu'à ce matin.
RFJ 12h26.
Le sport avec la loterie romande.
Valentinus Baumer pourrait rafler un prix avant de traverser l'Atlantique. L'ancien attaquant du HC Bienne fait partie des trois nominés au titre de jeune joueur de l'année. La Fédération suisse de hockey sur glace a dévoilé la liste ce matin. Le Jurassien est en lice face à Tim Berni de Zurich et Dominique Sverger d'Ambry. Les récompenses du hockey sur glace helvétique seront remises le 3 août à Berne. Le joueur bernois pourrait lui être à l'honneur grâce à Grégory Hoffmann. L'attaquant de Lugano est nominé au titre de meilleur joueur des playoffs. Il est en concurrence avec son coéquipier Maxime Lapierre et le Zurichois Kevin Klein. Célien Wicht change lui de maillot et de catégorie de jeu. Le footballeur jurassien rejoint Cham pour le début de la saison de Promotion League. Son club de Rapperswil l'a prêté pour 6 mois. L'attaquant de 20 ans aura l'occasion de retrouver du rythme, lui qui a été longuement blessé la saison dernière. Célien Wicht pourrait faire son retour en Challenge League dans les rangs de Rapperswil dès cet hiver. Un tracé mythique attend les coureurs du Tour de France. La 12e étape de la Grande Boucle va mener les cyclistes de Bourg-Saint-Maurice à l'Alpe d'Huez. Le peloton pédalera sur un parcours de 175,5 km. Ce troisième jour alpestre a la particularité de proposer 3 cols classés hors catégorie, dont l'arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez. Sur la route du Tour, la présentation de cette 12e étape est signée Fred Adam.
La paix des braves ou la guerre du clan, que nous réserve cette troisième étape alpestre qui s'achèvera tout à l'heure à l'Alpe d'Huez au terme de la mythique ascension et de ses 21 virages. Au lendemain de la prise de pouvoir du Gallois Geraint Thomas dans la station de la Rosière, les Skye seront à la barre, c'est sûr, pour assumer le poids de la course comme ils en ont parfaitement l'habitude. Mais tout le monde scrutera l'attitude du duo Thomas Froome, susceptible de se livrer une guerre fratricide. Les coéquipiers britanniques scelleront peut-être une union sacrée, mais la course s'occupera d'asseoir les rôles ou de rebattre les cartes. Le menu du jour comportera du lourd, du très lourd, avec entre Bourg-Saint-Maurice et l'Alpe d'Huez pas moins de 3 ascensions hors catégorie. Le col de la Madeleine, long de 25 km, puis les lacets de Montvernier, tremplin vers la Croix de Fer, escaladé sous le regard des aiguilles d'Arves, qui proposera près de 30 km d'ascension avant de rouler 11 km dans la plaine pour attaquer la montée finale vers l'Alpe d'Huez dans ce marathon de 175 km 500 entre Savoie et Isère. Il y aura sans doute 2 courses dans la course, celle pour la victoire d'étape et celle pour le classement général avec la surpuissante Skye pour régente, vous l'aurez compris.
Et on apprend que le leader de la formation EF Drapac, Rigoberto Urán, a abandonné avant le départ de cette 12e étape aujourd'hui. Le Colombien, qui avait pris la 2e place du Tour de France l'année passée, souffre de douleurs à une jambe et un bras qui le handicapent depuis sa chute sur les pavés de la 9e étape. Bon après-midi.
Merci Émilie, la suite c'est la météo et il y aura les naissances dans quelques secondes. Sachez déjà qu'il y a 3 petites filles à vous annoncer. C'est toujours le même discours, une journée bien ensoleillée sur l'ensemble de la région. Voilà ce que prévoient les experts de Météo News avec le développement de cumulus au fil des heures. Mais le temps devrait rester sec et tout cela nous donne des températures maximales comprises entre 26 degrés aux Franches-Montagnes et 30 en plaine. Demain, le temps sera assez ensoleillé et chaud, mais progressivement plus lourd. Le développement de cumulus donnant lieu à des averses et orages localement forts est prévu en cours d'après-midi et une dégradation pluvio-orageuse assez active sera possible en soirée et dans la nuit avec un risque de grêle et de fortes rafales de vent, mais attention, tout cela est à confirmer. Demain, à l'aube, il fera entre 15 et 17 degrés, puis au meilleur de la journée, 25 à Seigne-Légier, 29 à Delémont, Porrentruy et Moutier.